affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Qu'est-ce qu'un peintre? Qu'est-ce qu'un artiste? Le talent est-il inné? Doit-il puiser son inspiration dans les maîtres ou rompre avec eux pour affirmer sa singularité? L'artiste doit-il préférer la rupture ou privilégier la transmission, s'inscrire dans des écoles ou poursuivre sa propre voie intérieure? Voici quelques-unes des questions éternelles, mais que nous allons nous poser au fil de cette nouvelle émission. Rassurez-vous toutefois, nous n'allons pas cheminer de façon purement abstraite, rester dans les limbes de cette réflexion, mais plutôt l'incarner en allant à la rencontre d'une famille d'artistes singulière, les Rouards, auxquels Dominique Bonnat, membre de l'Académie française, vient de consacrer un ouvrage aux éditions Gallimard. Dominique Bonnat, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir eu la gentillesse d'accepter de nous rejoindre dans le studio pour nous présenter cette famille qui, sous trois générations, s'est vouée d'une façon exigeante à la peinture, d'abord en tant que mécène et collectionneur, ce qui est plus connu, mais également, c'est ce que j'ai découvert et approfondi, en tant que peintre. Pouvez-vous d'abord nous dresser le tableau, c'est le cas de le dire, général de cette famille?
Oui, c'est bien que vous évoquiez justement l'idée de famille, parce que les Rouards, c'est avant tout cela, l'histoire de peintres, mais qui s'inscrivent véritablement dans, un tableau qui va de l'impressionnisme jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc une longue époque de l'histoire de la France, mais aussi de l'histoire de l'art. Ils y occupent une place véritablement de premier plan. Ces Rouards, dont le nom a longtemps été méconnu, sortent de l'ombre et regagnent cette lumière dont ils ont été les peintres, car ce sont des peintres de la lumière. Cet ouvrage, je l'ai écrit parce qu'il y a quelques années, j'ai consacré une biographie à Berthe Morisot. Berthe Morisot est une femme peintre, la femme peintre de l'impressionnisme. Elle a été longtemps la seule femme de ce groupe d'avant-garde. Et c'est une femme qui m'a toujours fascinée, une artiste exigeante, magnifique. Grâce à Berthe Morisot, j'ai rencontré les Rouards. Pourquoi? Parce que Berthe Morisot, qui était pour l'état civil Madame Manet, car elle avait épousé le frère d'Édouard Manet, a eu une fille unique, Julie Manet, laquelle a épousé un peintre, Ernest Rouard. Et c'est grâce à Berthe Morisot, finalement, que je suis venue vers la galaxie des Rouards, lesquels, comme l'a très bien défini un journaliste du Figaro, les Rouards sont les Médicis français. Il l'a dit sans aucune ironie, avec au contraire une admiration, les Médicis français, parce que ces Rouards sont à la fois des peintres, des collectionneurs, des mécènes. Collectionneurs mécènes, mais peintres et artistes totalement eux-mêmes. Donc là, on va rencontrer trois Rouards, Henri, Ernest et Augustin. Trois générations.
Alors je vous propose que nous cheminions dans l'ordre chronologique, en commençant par celui qu'on pourrait appeler le patriarche, ou en tout cas l'initiateur de cette dynastie de peintres, Henri Rouard.
Alors, Henri Rouard est de la génération de Manet. Il fait partie du groupe des impressionnistes. Il a été l'ami des impressionnistes, de tous, aussi bien de Berthe Morisot que de Degas, de Renoir. Il a signé avec eux la charte qui fonde l'impressionnisme et il a participé à toutes les expositions. Il y a 8 expositions impressionnistes. Il participe à toutes, sauf une. Et il finance également les expositions de ce mouvement. Comme vous savez, les impressionnistes artistes n'exposent pas dans les salons officiels, ils sont obligés de financer les expositions auxquelles ils participent. Eh bien, Henri Roy est actif à la fois, justement, dans le mécénat de ses expositions, mais lui-même, comme peintre, avec les œuvres qu'il expose. C'est un peintre à la fois de paysages et de portraits, un peintre qui doit sans doute beaucoup à la lumière de Corot, mais qui travaille dans sa propre manière, assez classique, très apparenté, c'est vrai, à l'école de Fontainebleau. Néanmoins, il est lui-même, peint beaucoup des tons de vert, tous les tons de vert, du vert sombre au vert clair. Il peint beaucoup les jardins, les forêts. C'est un homme calme, vous l'avez défini comme un patriarche, et c'est une excellente définition. Il vit dans un hôtel particulier de Paris, rue de Lisbonne. Et là, il a sa pièce à lui, son atelier magnifique, où il travaille sans cesse. Pourtant, c'est un artiste particulier, car cet artiste est aussi un polytechnicien. Il a fait l'école polytechnique. Il est sans doute le seul artiste à être à la fois polytechnicien et élève de Corot. Mais c'est aussi un homme d'affaires. C'est un industriel. Il a des usines de fer creux à Montluçon, dont il s'occupe, qu'il développe. Il a à la fois le sens des affaires et le sens de l'argent. C'est également un ingénieur et un inventeur de talent. Il a même inventé un prototype de bicyclette. Il est l'inventeur d'un système de réfrigération qui a eu longtemps cours, notamment à la morgue, c'est peut-être pas très gai, mais il a aussi équipé certaines usines, non seulement en France, mais jusqu'en Louisiane. Et Degas, lors d'un voyage en Louisiane, va aller visiter les usines équipées par son meilleur ami, qui est Henri Roir.
Oui, parce que donc Degas est le grand ami de
Oui, Degas de est le grand ami de la famille.
J'ai appris en lisant votre ouvrage qu'il déjeunait tous les vendredis chez les Roirs.
Alors, il est l'ami de la famille en général, mais il est particulièrement l'ami d'Henri. Henri et Roir et Edgar Degas ont été condisciples dans le même lycée, Louis le Grand. Ils se sont retrouvés en 1870, au moment de la guerre avec les Prussiens, et ils ont combattu dans le même groupe d'armées. Henri Roir commandait un bataillon et Degas était sous ses ordres. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Et il y a entre eux une amitié, je dirais même fraternelle. Ce sont deux hommes qui se comprennent, qui se respectent, qui s'admirent, qui se conseillent. Plus d'une fois d'ailleurs, Degas, qui est lui aussi collectionneur, demande les conseils d'Henri, qui est toujours très éclairé quand il s'agit de découvrir le talent d'un artiste. Donc il lui demande des conseils pour acheter des toiles, notamment chez le père Martin. C'est très beau l'amitié de ces deux hommes, il y a des lettres magnifiques entre eux. Il y a une vraie complicité. Et donc, Degas, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, a une famille. Et cette famille, ce sont les fils d'Henri Roir. Il les aime tous également. Il a eu 5 enfants, Henri Roir, 4 fils. Et Degas noue avec Henri, qui est veuf, très tôt, et avec ses enfants, des liens vraiment familiaux. C'est sa famille. Donc il vient, en effet, une fois par semaine, dîner, chez Henri Roir, rue de Lisbonne.
Alors justement, rue de Lisbonne, c'est l'hôtel particulier des Roirs. Si vous me permettez, vous avez évoqué le fait que c'était un collectionneur ardent. Oui. Et vous donnez une citation du peintre Paul Signac, qui est amené à se rendre dans cet hôtel particulier. Et voici ce qu'il dit. « C'est affolant. Du haut en bas, la maison est pleine de tableaux qui, dans toutes les pièces, garnissent les murs du plancher au plafond. Il n'y a plus une place de vide. C'est une profusion de merveilles. J'en ai tant vu que je sors ahuri. » C'est un collectionneur à la fois avisé, mais un peu dans l'addiction.
On
ne voit plus la tapisserie.
Comme beaucoup de collectionneurs, il ne peut pas se passer de toile. Il vit au milieu des œuvres. Cet hôtel particulier était tapissé, paraît-il, d'après tous les témoins, d'une tenture couleur lit de vin, très sombre. Mais sur cette tenture, il y avait les couleurs éclatantes, non seulement de Renoir, de Degas, de Manet, mais aussi de peintres plus classiques comme Corot, Delacroix, Goya, Le Greco, Poussin, oui. C'est hallucinant. Cette collection a été vendue à sa mort en 1912. Et la vente de la collection Roy en 1912 a vraiment fait date. C'est le moment où les impressionnistes connaissent leur cote. Les Américains, pour la première fois, arrivent là vraiment sur le marché. Plusieurs milliardaires américains sont là pour acheter certaines des toiles. Que Degas, qui est encore vivant, lui, à cette date, il ne meurt qu'en 17, regarde tout cela d'un air à la fois étonné, un peu narquois. Ce sont des toiles qu'il a vendues, dira-t-il, pour quelques sous et qui s'envolent pour des sommes faramineuses. Henri Roir est un homme éclairé, un collectionneur sans limite qui aime tous les styles de peinture. C'est cela qui est très sympathique chez lui, c'est qu'il n'est pas fermé à une école. Il pourrait n'aimer que les impressionnistes qui sont ses amis, ne collectionner qu'eux. Non, pas du tout. Il aime le passé, il aime le présent et il attend l'avenir. C'est lui qui va découvrir certains des nabis, dont Maurice Denis. C'est lui qui va également.
De Gauguin,
c'est lui, oui. C'est lui qui découvre, enfin, fait partie des premiers, en tout cas, collectionneurs de Gauguin. Il achète Gauguin extrêmement tôt. Et à la vente, Roy, en 1912, un Gauguin magnifique qui s'appelle le Nave Nave Mahana est acheté par un musée, le musée des Beaux-Arts de Lyon. Et pour la première fois, un Gauguin entre dans une collection publique.
Donc ça, c'est l'intermédiaire des Roirs.
Par l'intermédiaire des Roirs.
Ce qui signifie bien qu'il a eu finalement son action de collectionneur, de mécène, d'amateur, et aussi d'homme passionné, parce qu'il disait « je n'ai jamais eu ici que des choses de passion ».
Oui.
Ce n'était pas un spéculateur, il faut bien le préciser.
Pas du tout.
Il n'essayait pas de se dire « ceux-là vont ensuite pouvoir être valorisés », ça lui passait complètement au-dessus de la tête.
D'ailleurs, je cite dans mon livre une phrase amusante, parce que, en effet, il avait une rencontre avec son banquier, et son banquier lui avait fortement déconseillé de continuer des placements aussi aberrants, parce qu'à l'époque où Henri Roy achetait les Degas, les Renoir, et etc., et Manet, évidemment, personne n'en voulait de ces peintres-là. Et Henri, lui, les aimait profondément et avait compris que les impressionnistes étaient une école de l'avenir, qu'ils peignaient de manière différente, qu'ils avaient une autre sensibilité, une sensibilité qui correspondait davantage à l'époque contemporaine. Lui-même, au fond, n'est pas tout à fait impressionniste dans sa peinture. Il est même assez peu. Il peint plus dans l'école de Barbizon que dans l'école impressionniste. Mais de cœur, il est entièrement avec cette avant-garde. Il admire profondément Degas. Et il admire Monet. Enfin, c'est un homme au grand cœur. C'est vrai, au fond, on pourrait le définir comme ça. C'est un homme généreux, profondément sensible et qui a un talent, pour la peinture, à la fois pour peindre lui-même, mais aussi pour deviner chez les autres le talent quand il est exceptionnel.
Semble-t-il, est-ce peut-être pas par humilité, mais il se refusait à le voir et le découvrir dans ses propres œuvres, semble-t-il.
Oui, c'est un homme très modeste. D'ailleurs, cette modestie, on va la retrouver d'une génération à l'autre, chez tous les autres Roirs. Ce sont des gens qui peignent avec passion, qui collectionne avec passion, mais qui demeure extrêmement pudique et discret, et je dirais dans l'ombre. Finalement, ce sont des gens qui ont existé puissamment, mais ils ont existé dans l'ombre. Ils n'ont pas du tout recherché la gloire pour eux-mêmes. Ils n'ont pas du tout usé des moyens financiers qu'ils avaient pour faire la publicité de leurs propres œuvres. Ils auraient pu organiser des collections, enfin des expositions, etc. Non, ils sont restés toujours extrêmement sobres. Ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui, un artiste se doit, pour exister finalement, de parler de lui-même, de se mettre au premier rang, de se mettre en scène. en ce temps-là, du moins dans cette famille, ce qui était important, c'était l'amour qu'on portait aux œuvres qui étaient là autour de soi, qui faisaient partie, au fond, du décor de la famille. Et d'ailleurs, le mot décor ne convient pas, parce que décor suppose que c'est artificiel. Non, c'était partie de la vie de famille. Toutes ces œuvres étaient vivantes autour d'eux. Elles étaient dans la salle à manger, dans le salon, dans le couloir, dans la cage d'escalier, partout. L'œil pouvait se poser sur des merveilles.
Et si j'ai bien compris, les propres œuvres d'Henri, elles, étaient cantonnées à l'atelier et ne les accrochaient pas dans son hôtel particulier.
Oui, c'est ça. Elles étaient dans l'ombre, elles aussi.
Et ne les signait même pas toutes.
Même s'il a exposé avec les impressionnistes quand même. Il a exposé ses œuvres. Et c'est Paul Valéry, un de ses grands admirateurs. Paul Valéry admirait Henri Rouart et écrit que Henri a été l'une des personnalités qui, dans sa vie, l'ont le plus marqué. Paul Valéry lui vouait une immense admiration.
Il écrivait, j'ai trouvé cette citation dans votre livre, hein, je n'ai aucun mérite, il écrivait donc qu'il n'avait ni l'ambition, ni l'envie, ni la soif de paraître, non, ni l'ambition, ni l'envie, ni la soif de paraître ne l'ont tourmenté.
Oui, c'est cela. Un homme à la fois intelligent, brillant, un homme avisé, homme d'affaires exceptionnel, un grand peintre. La finesse du trait d'Henri Rouart, les couleurs d'Henri Rouart, si effacées elles aussi, méritent finalement qu'on le regarde. Il y a deux ans à peu près, une très belle exposition à Paris au musée Marmottan sur Henri Rouart, qui a permis justement à certaines toiles qui étaient encore dans la famille Rouart de venir vers le public. Et on verra que ces expositions d'Henri sont quand même suffisamment rares pour qu'on les savoure quand elles ont lieu.
Passons au second cœur. S'il a réussi quelque chose aussi, c'est à transmettre sa passion. Vous évoquiez non pas le décor, mais cette ambiance familiale tournée vers l'art, vers le beau, et qui a imprégné, semble-t-il, tous ses enfants, mais alors particulièrement Ernest. Je ne sais plus quel est son ordre dans la fratrie.
C'est l'avant-dernier de ses quatre fils.
Voilà. Alors lui, il est prédestiné, puisqu'il est né l'année de la première exposition impressionniste.
Oui.
Alors, est-ce que vous nous parlez un petit peu
en 1874.
De lui, de sa destinée, puisque vous nous dites que son père le voyait comme un successeur pour ses affaires, mais que finalement la passion de son père pour la peinture a pris le dessus, puisque lui-même a décidé de devenir peintre et d'imposer son choix malgré tout.
Oui, parmi ses quatre fils, Henri Rouart souhaitait que l'un d'entre eux reprenne les affaires familiales, les usines de Montluçon, mais aucun n'a eu cette vocation. C'est son gendre, le fils de sa fille Hélène, qui s'en est occupé un certain temps. Ernest, des quatre fils, était le seul à pouvoir lui succéder, parce que lui aussi avait l'envergure d'un polytechnicien. Mais il a très vite renoncé à tout cela, parce qu'il n'avait qu'une vocation dans sa vie, c'était peindre. Et il a eu un seul maître dans sa vie, c'est Edgar Degas. Degas n'a eu qu'un seul élève dans toute son existence, c'est Ernest Rouart. Donc là, il y a une relation très importante. Degas, qui était le meilleur ami de son père, sera le professeur, le maître de dessin d'Ernest. Et Ernest, d'ailleurs, sera à dure école avec Degas.
Je vais le dire, il y a quand même des professeurs probablement moins... C'est bien d'avoir un professeur exigeant, mais enfin, il ne devait pas être facile tous les jours.
Non, il était très difficile, très exigeant. Il lui donnait des exercices presque impossibles à réaliser. Mais Ernest gardera en héritage toutes les leçons de Degas. Donc, ce sera lui aussi un peintre d'exigence, un peintre quelquefois un peu sévère avec lui-même. Là, on retrouve un des traits des Rouart, c'est-à-dire une volonté de suivre sa voie, de suivre son chemin, même si ce chemin n'est pas forcément dans les modes ou dans les codes. Donc, il y a une exigence personnelle chez chacun d'entre eux. Ils choisissent une voie, ils s'y tiennent. Ernest, comme je vous le disais tout à l'heure, a épousé Julie Manet, la fille unique de Berthe Morisot. Et ils vont s'établir dans un immeuble du 16e arrondissement. J'aime bien dire les lieux, faire revivre finalement ces personnages dans leur contexte. Et Henri Rouard, je vous disais, dans un hôtel particulier de la rue de Lisbonne. Ernest, lui, va venir s'établir dans un immeuble du 16e arrondissement construit par Berthe Morisot et par son mari, qui était à l'époque rue de Villejuste. Aujourd'hui, cette rue a été débaptisée et s'appelle la rue Paul-Valéry, parce que Paul Valéry a lui aussi habité à côté de son meilleur ami Ernest Rouard. Les Ernest Rouard habitaient au 4e étage, les Paul Valéry au 3e, et les deux familles ont constitué une grande famille ensemble, c'est-à-dire ils vivaient, ils déjeunaient, ils dînaient ensemble, ils partaient en vacances ensemble, dans une propriété également qui était là, qui avait appartenu à Berthe Morisot. Donc on retrouve ici cet esprit de clan, un clan non pas du tout fermé aux autres, mais au contraire ouvert, puisque là viennent de très nombreux artistes, amis de la famille, et on se retrouve entre artistes, écrivains, poètes ou musiciens, pour parler d'art.
Et là encore, Ernest Rouard est un grand peintre, et quand on feuillette le livre, c'est vraiment impressionnant. On sent j'espère ne pas vous choquer, mais l'impact incroyable de Degas sur Ernest Rouard, car si on n'est pas spécialiste de Degas et qu'on vous présente certaines de ses toiles, on ne peut que les lui attribuer.
Oui, certainement. On retrouve vraiment une très forte influence de Degas. Et en même temps, quelques traits d'Ernest, oui, je l'appelle Eugène, parce que vous venez de tourner la page du livre au portrait magnifique qu'il a fait de son frère Eugène. Et Ernest a lui aussi sa manière qui est toute en intimité. Il y a une intimité chez Ernest dans les portraits, dans les scènes de famille, il y a une douceur. Il y a un certain érotisme aussi dans de nombreuses toiles, un érotisme discret, un érotisme de l'époque, mais qui n'en est pas moins très sensuel. Ernest, des trois peintres dont nous parlons en ce moment, est certainement celui qui a développé, mais jusqu'à son extrême, je dirais, les valeurs de discrétion. Il n'a jamais exposé, ses toiles sont restées toujours dans sa famille. Enfin, c'est vraiment très rare même de voir passer en salle des ventes, par exemple, un Ernest Rouard. Donc aujourd'hui, grâce à Jean-Marie Rouard, l'écrivain Jean-Marie Rouard, qui porte le nom du dernier des peintres que nous allons évoquer, donc, qui est le fils d'Augustin Rouard, bien, grâce à lui, il y a des expositions qui permettent de voir le travail longtemps secret ou oublié de ces peintres. Donc en ce moment, à Rueil-Malmaison, à l'atelier Grognard, on peut voir les toiles exposées. Henri, dans ses tons de vert, son classicisme épuré. Ernest, avec en effet, comme vous l'avez dit, l'influence de Degas, mais aussi l'influence des années 20, des années 30. Il est tout à fait dans son époque. Et en même temps, le dernier d'entre eux, Augustin, donc, dont nous parlerons tout à l'heure.
Oui, parce que je voudrais qu'on reste un petit peu encore
vous voulez rester sur avec Ernest.
on le sent en voyant ses œuvres, on sent que c'est, enfin, on ressent, et vous le dites aussi, qu'il a une vie intérieure extrêmement forte, mais que probablement il n'en laisse rien parler par politesse, probablement délicatesse, tact ou autre. Dites notamment qu'il y a aussi, c'est en filigrane, un rôle important de la foi et de la spiritualité dans la famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, en effet, c'est une dimension importante. C'est une famille catholique, c'est une famille catholique pratiquante, Ernest tout particulièrement. C'est une famille, si vous voulez, où la dimension spirituelle est importante. On va à l'église, on prie. La prière est un élément vivant, fait partie de la vie. Comme l'art fait partie de la vie. Il ne peint pas forcément des sujets religieux, comme Maurice Denis, par exemple, qui est un grand ami de la famille, mais cette spiritualité imprègne complètement la peinture. Il suffit de regarder. Les êtres sont souvent représentés dans des attitudes méditatives. Même les scènes érotiques ont quelque chose, une lumière particulière. C'est en effet, oui, c'est un des traits d'Ernest, à la fois un homme taciturne, un peu fermé sur lui-même, qui communique peu, même s'il est un père très affectueux, qui sera un grand-père absolument adorable avec ses petits-enfants, donc souriant, aimable, il est toutefois habité par la souffrance de l'artiste. Il y a chez tous les rois cette souffrance de créer. Ils veulent atteindre une perfection artistique et cette perfection parfois leur échappe, ils la placent si haut peut-être qu'elle est difficile à amener sur la toile. Et je crois que c'est peut-être cette dimension-là aussi, la spiritualité dont nous parlions. C'est cette souffrance de l'artiste qui s'élance vers un idéal très haut, très élevé, qu'il peine à atteindre en luttant avec le dessin, avec la toile, avec les couleurs. C'est un être souffrant, Ernest Roire.
Ça se sent un petit peu. C'est oui, à la fois paisible et très mélancolique.
C'est très mélancolique, très mélancolique. C'est dû à son tempérament d'homme, peut-être aussi aux circonstances de sa vie. La guerre de 14, Ernest Roire était un combattant de 14, il est allé et il a été gazé en 14, il restera un homme blessé, il a les séquelles de cette blessure de guerre et il mourra d'ailleurs assez jeune, relativement jeune.
Dans ces tableaux, il y a aussi beaucoup de personnages, ce qui n'est pas forcément le cas de son papa. On sent que, curieusement, oui, cet homme secret que vous décrivez, retiré de la vie et autres, voilà, mais beaucoup de
Oui, il y a beaucoup de humains. Portraits, il y a beaucoup d'êtres humains. Autant Henri est vraiment surtout un peintre de paysages, et quand il représente des paysages, les silhouettes s'effacent souvent à l'arrière-plan. Au contraire, chez Ernest, en effet, on pourrait voir une galerie de personnages. Alors, d'un côté superficiel, ces personnages en habit d'époque pourraient très bien être dans un musée du costume, à Galliera par exemple, ou auraient été parfaits dans l'exposition qu'il y a eu à Orsay il y a quelques années sur l'impressionnisme et la mode. Mais parce que vraiment, on voit les costumes des hommes comme des femmes, d'abord belle époque, donc robe longue, corset, etc. Et puis, passant après la guerre de 14, les années 20, donc les femmes avec des cheveux courts et des bibis au lieu de ces grands chapeaux 1900, et les robes raccourcies, etc. La femme, on le sent, se libère à des poses beaucoup plus souples. Donc il y a toute une observation chez Ernest vraiment très intéressante. Mais en même temps, cet aspect-là écarté, on se retrouve face à cette mélancolie que vous évoquiez, à un univers intérieur de peintre qui est à la fois secret et incroyablement nostalgique, d'un bonheur qui semble hors d'atteinte. Ce n'est pas un peintre du bonheur, Ernest Roire, c'est plutôt, oui, un peintre de la mélancolie et des secrets intérieurs.
Oui, tous ces personnages dont vous parlez, effectivement, sont un témoignage certainement de première main sur l'époque, mais ils ont tous une intensité, oui, notamment dans le regard ou même la posture qui laisse paraître bien d'autres choses.
Et je vois que vous aimez bien Ernest Roire. Alors
oui, beaucoup.
Je suis contente parce que c'est un peintre qui ne se donne pas au premier coup d'œil, justement par cette espèce de pudeur congénitale des Roire et qui peut-être a été aussi un frein à son aura, au fait qu'on a du mal à le découvrir aujourd'hui. Mais sa peinture est éclatante.
Oui, je me suis dit exactement le contraire. Je suis désolé, mais bon, c'est une discussion.
Ah oui,
je me suis dit
que
le carcan qu'il s'imposait devait contribuer à l'intensité des choses peintes. C'est-à-dire que toute, oui, cette force qui ne peut pas sortir et qui était contenue, du coup, rejaillit, mais juste derrière un œil, un regard, et que sans. Comme ça n'a pas explosé, c'est là d'autant plus fort.
Voilà. Oui, mais c'est une très bonne analyse, très très bonne analyse. La psychanalyse, évidemment, à cette époque et dans ce milieu, ne se pratiquait pas. Mais sans doute, Ernest a-t-il souffert aussi beaucoup de l'héritage paternel, d'une certaine façon, vous voyez ? Parce que ce père magnifique, Ce père qui avait tous les talents et qui était très bon avec ses enfants, un père irréprochable vraiment, eh bien peut-être était un peu écrasant malgré tout, parce que c'était un modèle que les quatre fils peinaient à imiter et à atteindre. Ils se disaient que ce n'était pas possible d'arriver au niveau d'Henri Rouart, ni dans le domaine des affaires, ni dans le domaine de la peinture. Les autres fils aussi. Eugène, par exemple, a beaucoup peiné lui-même pour exister. Il a écrit, lui est romancier, il a essayé de s'exprimer dans le domaine du roman, était très ami d'André Gide, mais toujours un frein, c'est-à-dire l'idéal de leur père était quand même tellement haut, l'art était placé sur de tels Himalayas que c'était sans doute extrêmement intimidant quand soi-même on voulait faire acte de peintre ou d'écrivain. Voilà. Et pour Ernest, il est certain que l'héritage a été écrasant. Il l'avoue lui-même, sa jeunesse sans mère, parce que la mère avait disparu très tôt, dans un univers principalement d'hommes, puisqu'il y avait le père et les fils, la fille aînée s'étant mariée très vite, était sévère. C'était un univers sans douceur. Donc, en dehors des couleurs éclatantes des tableaux sur les murs, il a sans doute manqué aux quatre fils rois l'affection d'une mère, la douceur ou la fantaisie peut-être aussi d'une femme dans un foyer.
Il y avait celle de Degas, mais qui est plus rugueuse.
Oui, la fantaisie de Degas n'était qu'un... C'était un homme bourru, Degas. Il est génial, mais d'ailleurs, on l'appelait... il tutoie Henri Rouart, mais c'est très exceptionnel. Degas, dans la famille, c'est quand même Monsieur Degas. De même qu'on appelait Renoir, Monsieur Renoir. Pour les fils appelaient Degas Monsieur Degas. Il n'appelait pas Edgar, hein. Pas du tout. Pas de familiarité. Donc c'était quand même un personnage lui aussi intimidant, et bien qu'affectueux, mais bourru, très bourru.
Dans cette révérence à l'égard du père et de son œuvre, vous dites que lui-même et donc son épouse, Julie Manet, se sont chargés aussi de transmettre. Ils ont été les gardiens de l'héritage et de la mémoire, ce qui est probablement aussi une façon de contribuer à l'œuvre, mais avec humilité.
Oui. Ils ont eu un rôle capital.
Comment
parce que, vous voyez, l'appartement que j'évoquais tout à l'heure au quatrième étage de la rue de Villejuste, eh bien, lui aussi, cet appartement, à un degré moindre que chez Henri Rouart, mais il était lui aussi, cet appartement, une sorte de musée, un musée familial. Il y avait des toiles extraordinaires des impressionnistes, tout particulièrement de Manet. Un tableau célèbre qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, le tableau des parents Manet, c'est-à-dire les parents d'Édouard Manet, se trouvait au-dessus du lit conjugal. Et au-dessus du buffet dans la salle à manger, au-dessus de la corbeille à pain, au-dessus de la desserte, il y avait le magnifique Berthe Morisot au bouquet de violettes peint par Manet, lui aussi au musée d'Orsay. Je n'évoque que ces deux chefs-d'œuvre.
Quand on est croisement de deux dynasties, c'est quand même encore plus lourd.
Oui,
il n'y a pas qu'en
parce que Ernest se trouve en effet donc héritier d'un côté d'Henri, dont il rachète quelques toiles au cours de la vente de 1912, mais il est aussi héritier par sa femme de Berthe Morisot et de Manet. Donc, c'est vraiment là, on est au cœur de l'impressionnisme. Et Ernest et Julie Rouart vont vraiment avoir le sens de leur devoir vis-à-vis de ces chefs-d'œuvre dont ils ont hérité. Ils ne vont pas les vendre, ils vont les garder, mais ils vont tenter de les faire connaître, de les présenter ici ou là. Donc, leur rôle est absolument essentiel dans l'histoire de l'impressionnisme.
Oui, parce que non seulement
de l'impressionnisme et de Manet, qui lui n'est pas impressionniste, mais enfin bon, qui rejoint, si vous voulez, l'art de cette époque, voilà.
Oui, dans la démarche, il y a non seulement conserver ceux qui sont en leur possession, mais vous dites, il va jusque dans les salles des ventes pour reconstituer un fonds en quelque sorte.
C'est
donc
ça.
Il se met réellement au service de cette transmission.
Il n'est pas fermé, si vous voulez, sur son œuvre lui-même. Il cherche justement à aider. Ces peintres qui ne sont pas encore, comme Manet mettra un certain temps à se faire connaître, Vous savez, quand Manet meurt à la vente de son atelier, on dira que le total de la vente de l'atelier de Manet à sa mort a représenté moins que la vente d'un petit maisonnier pour l'époque. Ça donne un petit peu, si vous voulez, la relativité des valeurs dans ce domaine de l'art. Donc Ernest et Julie vont vraiment œuvrer pour que Manet retrouve sa place, pour que Berthe Morisot retrouve sa place. Ce sont les deux phares familiaux, plus Edgar Degas, bien évidemment, qui lui aussi, d'une certaine façon, rejoint la famille.
Alors, dans cette famille où on a le sens du devoir, où on s'inscrit dans une lignée, il y a le dernier, Augustin Rouard, petit-fils d'Henri, et dont vous nous dites que lui, par contre, peut-être parce que la figure tutélaire s'éloignait avec le temps, a réussi davantage à s'affranchir de la lignée pour exprimer davantage sa propre personnalité artistique.
Et on imagine que ce n'était pas facile. Donc il est en effet le petit-fils d'Henri, le fils de Louis, qui est le dernier des fils d'Henri Rouard, le benjamin de la famille, et il est donc le neveu d'Ernest. Donc là, on a, si vous voulez, on atteint la troisième génération de peintres. Augustin a eu deux maîtres, hein, lui aussi, Degas a beaucoup compté quand même pour lui également, c'est important. Mais il a eu un autre grand-père peintre, c'est-à-dire qu'il a eu Henri, comme grand-père paternel, mais du côté maternel, il y avait un autre peintre qui s'appelle Henri Lerol, même génération qu'Henri Rouard, qui est un peintre qui a eu son heure de gloire en son temps, on parlait beaucoup de lui, il a peint des commandes pour l'État, également pour les églises. Et Henri Lerol, qui est un personnage très humain, un humaniste, un personnage très bon, aimait beaucoup ce petit-fils, et donc a donné sans doute les meilleurs conseils à Augustin. Ses conseils, c'était qu'il n'allait pas donner de conseils. Et il lui a fortement dit de suivre sa propre voie, d'établir sa recherche personnelle. Donc Augustin a laissé finalement parler son pinceau, et son pinceau le guidait plutôt vers les primitifs italiens, vers cette période où la peinture est presque naïve, se résume à quelques traits presque enfantins. Mais ce trait enfantin, c'est du très grand art. Et c'est à l'école des primitifs italiens qu'Augustin va aller puiser à la fois, si vous voulez, ses sujets, mais surtout sa manière. Donc c'est un peintre qui a quelque chose de naïf, en même temps de très subtil, de très épuré. C'est la simplicité portée au sommet.
Oui, on sent cette
qualité. Un génie de la simplicité.
Ce qui n'est pas facile d'ailleurs, la simplicité.
Non, on peut croire que c'est ce qu'il y a de plus simple, la simplicité, mais non. Ces tableaux sont fascinants d'ailleurs. Quand on les voit exposés comme là à Rueil-Malmaison, ou comme ils ont été exposés il y a quelques années au musée des années 30 à Boulogne, ces tableaux souvent d'assez petit format, petit et moyen format, ces huiles, avec ces tons de bleu, ces tons quelquefois même délavés, qui joue avec l'abstrait quelquefois quand il peint des vagues, quand il peint les marais de Noirmoutier ou quelques sommets des Pyrénées. Ces tableaux ont une force tout à fait incroyable. Il faut les regarder tranquillement, il faut se laisser imprégner par ces tableaux. Et lui aussi peintre secret, peintre peu exposé. Et on s'en étonne, parce qu'en les voyant là, sur les murs, il y a un éclat vraiment qui parle de lui-même.
Vous évoquiez le tact d'Henri Lerol, c'est ça ? Henri Lerol ?
Il s'appelle Henri Lerol, l'autre grand-père.
Voilà, à l'égard d'Augustin Rouard.
Collectionneur aussi, peintre et collectionneur. Vous voyez, c'est une famille au sens large, parce que je pourrais... C'est comme une toile d'araignée, vous voyez, très vaste. Et cette toile fine, diffuse, englobe vraiment toutes sortes de personnalités. Pris dans la toile d'araignée, non seulement Maurice Denis que j'évoquais, mais également Debussy, Paul Valéry à sa place dans cette magnifique toile d'araignée.
Et oui, il y a un jeu de correspondance incroyable.
Donc il y a un jeu de correspondance avec les musiciens, avec les écrivains. Gide est là, bien sûr. Gide est un intime de la famille Roar et de la famille Lerolle. Donc... Être l'héritier de cette famille, ça devait être très compliqué. Augustin, plus d'une fois, exprimait sa volonté d'être différent. Il a lutté toute sa vie, au fond, pour être lui-même. Il a lutté, au fond, contre un certain héritage de l'impressionnisme qui aurait pu l'inviter à refaire de l'impressionnisme de génération après. Il n'a pas du tout reproduit cette veine-là. Mais il aurait pu aussi adopter les modes de son temps. Le cubisme, le dadaïsme, le surréalisme, voire l'abstraction. Pas du tout. Il a œuvré à suivre sa voie. Et sa voie, il la reconnaissait, l'amenait à cette simplicité, figurative, certes, mais épurée, toujours épurée. Il n'y a pas d'école chez eux. Ça, c'est intéressant aussi. Ils n'ont pas fondé d'école. Ce ne sont pas des théoriciens de la peinture, ni même comme Maurice Denis, qui a tout de même écrit plusieurs volumes de théories sur l'art. Non, ce sont des êtres sensibles, très personnels, qui suivent cette voie mystérieuse qui leur vient d'où ? Qui leur vient peut-être à la fois de l'héritage, mais aussi de leur propre personnalité, de leur intuition, de leur travail. Ce sont de grands travailleurs, ce sont des gens qui n'ont pas du tout considéré la peinture en dilettante. Ce sont, vraiment, j'aime pas tellement le mot professionnel, parce que vraiment il est un peu triste ce mot. Disons, ce sont des passionnés de l'art. Et pour eux, l'art est la première valeur, avec Dieu sans doute. Parce que Dieu éclaire toute leur vie. Mais l'art a la première place. Et ça, c'est ce qui fait d'eux des artistes à part entière. Ils n'ont pas triché avec l'art. Jamais.
Et alors, lui également...
Et ils l'ont payé assez cher de ne pas tricher. Parce que justement, en n'épousant pas les modes, en n'épousant pas certains...
Ce ne sont pas des stratèges, oui.
Non, ce ne sont pas des stratèges du tout. Peut-être ne le sont-ils pas assez, mais... Heureusement, il semble qu'aujourd'hui, on puisse leur rendre justice. Tout d'un coup, ces expositions montrent qu'il y a finalement une justice à rendre à ces gens de passion, de vérité. Ils ont cherché une vérité et ils n'ont pas voulu tricher avec cette vérité.
Oui, c'était la leur. Plusieurs reprises, vous dites qu'il liait le beau au vrai.
Oui. Ah oui, ça c'est
quelque chose qui est un petit peu passé de mode, hein.
Oui, il y est. Pour eux, il n'y pouvait y avoir de beau que si c'était vrai. Je pense que c'est une phrase à méditer, peut-être. Je veux pas jouer les donneurs de leçons, pas du tout. J'aime pas ça. Mais le beau, le vrai, oui. Devoir de philo. Ils l'ont vraiment appliqué dans leur peinture. Et qui va voir leurs œuvres peut le reconnaître. Aucune séduction marchande dans cette peinture.
Oui, il n'y a pas d'effet facile.
Non, aucun effet facile. Simplicité, oui. Facilité, non.
Oui, on sent
ils
que c'est...
sont très exigeants.
Les trois. Sent qu'ils sont tendus vers une exigence oui. Et que voilà, ils se refusent à séduire par des artifices un peu. Voilà, il n'y a pas d'œillade ou de référence facile ou de. C'est assez étonnant.
Ils aiment trop la peinture pour tricher avec elle.
Vous permettez, on aurait pu terminer voilà, sur ce jugement qui n'en est pas un d'ailleurs, mais un hommage plutôt. Je voudrais quand même citer la façon dont Henri Lerolle conseille avec tact, délicatesse, mesure le jeune Augustin Roar de façon à ce qu'il prenne son envol. Henri Lerolle écrit « Tu me dis, il s'adresse à Augustin bien sûr, tu me dis que c'est Holbein, le meilleur portraitiste de tous les temps. Tu as raison, puisque c'est celui que tu comprends le mieux et qu'il mérite assurément d'être placé parmi les meilleurs. Je crois qu'il y en a d'autres aussi, mais je me suis interdit de te parler des peintres qui pourraient te troubler. » C'est magnifique.
Oui, Vous voyez, le grand-père, en général, le grand-père, c'est une figure tutélaire, un peu sévère, pas du tout. Il est ravi que son petit-fils soit peintre, mais en même temps, il a peur pour lui. Et au fond, il lui indique des chemins, mais c'est tout.
L'autre mot clé dans la famille, mais y compris chez Augustin, c'est peut-être celui de transmission. La transmission, c'est peut-être finalement le summum de l'humilité. C'est peut-être ce qui manque, peut-être même, j'élargis le propos à notre société finalement. Est-ce que c'est pas ce qui manque? Est-ce qu'on vit pas malgré tout finalement, au-delà de toutes les crises dont on parle, une crise de la transmission aujourd'hui? Je suis désolé de vous prendre comme ça avec une question
C'est essentiel en effet chez les rois, cette volonté d'être finalement redevable à un passé. Ils portent avec eux un passé, un héritage, on peut appeler ça comme ça, un héritage moral et artistique. Et cet héritage, ils sont heureux de le transmettre aux enfants, aux petits-enfants, et aux enfants et petits-enfants de leurs amis ou de ceux qui partagent leur étonnante passion.
Redevable au passé, mais soucieux de l'avenir.
C'est et ça soucieux qui est de bon. L'avenir, parce que ce sont quand même les rois, grâce à Henri notamment, que l'impressionnisme est aujourd'hui ce qu'il est, c'est-à-dire une peinture reconnue, qui a droit au musée, etc. Ce n'était pas du tout évident en son temps.
Merci beaucoup. Je précise les références de l'ouvrage. Titré très simplement, mais ça leur convient, « Les Rouards, de l'impressionnisme au réalisme magique » par Dominique Bonnat, aux éditions Gallimard. Je précise que c'est un très beau livre, non seulement par le texte, mais ça vous en êtes certainement déjà rendu compte, mais également par les illustrations qui sont nombreuses et de toute beauté, sans oublier quelques textes de figures tutélaires également, proches de la famille, Léon-Paul Fargue, Paul Valéry et d'autres, Frédéric Vitou.
Oui, Frédéric Vitou a écrit un très beau texte sur Augustin Rouard. Il y a aussi un texte de David Asio qui est important. David Asio qui a écrit une biographie sur les Rouards. Et donc, ce livre, est, au fond, et c'était très sympathique d'être là, tous regroupés, rassemble. C'est un livre qui rassemble tous ceux qui ont dans leur vie rencontré ces peintres, ces figures, ces personnalités et qui les ont aimés.
En tout cas, il est à l'image du sujet. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission.
Merci.